Bye bye.
Salut. Bye.
Boulevard 102.1. Se bat à tous les jours pour vous donner l'heure juste. Traitez l'actualité qui nous entoure avec les spécialistes qui savent de quoi ils parlent.
Oh my God, I can't believe it.
Boulevard décortique. Boulevard rassemble. Rassemble. Come together. La radio de l'extrême-centre au Québec.
Vive l'extrême-centre! Yes! Boulevard 102.1, l'extrême-centre, c'est nous autres.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Stéphane Leblond de chez Leblond et Associés, syndic autorisé en insolvabilité, est avec nous ce soir. Monsieur Leblond, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir.
Un plaisir partagé, Yannick.
C'est pas supposé d'être hyper occupé, ça, syndic autorisé en insolvabilité, par les temps qui courent. J'ai l'impression qu'il y a énormément de gens et d'entreprises qui ont des difficultés présentement.
Oui, c'est un fait que c'est plus occupé. Les entreprises, là, ils font face à différents défis, si on peut les appeler comme ça, là. Tu sais, la difficulté d'avoir de la main-d'œuvre à des prix raisonnables, les coûts de l'énergie qui augmentent. Et ce qui est tragique aussi, c'est l'incertitude qui est reliée à un paquet d'affaires. Depuis deux semaines, c'est l'incertitude par rapport à la guerre qui est au Moyen-Orient, l'incertitude par rapport aux tarifs qui sont imposés ou menacent d'être imposés par les Américains. Puis l'incertitude quant à la possibilité d'avoir des employés via l'immigration, parce que là, il y a toutes sortes de choses qui se trament. Alors, tu sais, c'est beaucoup de défis. Les marges bénéficiaires, dans bien des cas, sont diminuées. Les gens, si on regarde juste au niveau de la restauration, là, ce qui est pathétique, là, tu sais, c'est la première affaire qu'on coupe là, quand on commence à être serré dans le budget parce que c'est considéré comme une dépense de luxe. Alors, ça aide pas beaucoup le domaine de la restauration qui est déjà, tu sais, magané. Puis, il y avait une étude qui avait été rendue publique au début de l'année qui parlait qu'en 2026, il y a 5% des restaurants au Canada qui allaient fermer. Tu sais, c'est épouvantable, là. Ce qui fait en sorte que quand on a des dossiers de restaurants en faillite, bien, l'équipement de restaurant, ça ne vaut pas grand-chose parce qu'il y a plus de restaurants qui ferment que de restaurants qui rouvrent de ce temps-là. Mais tu sais, éventuellement, ça, c'est comme un balancier, là. Ça va revenir, mais pour l'instant, là, on est peut-être au bas là, de cette courbe-là.
Oui, puis toi, tu étais dans ce domaine-là depuis des années. Tu n'en es pas à ton premier rodéo. Tu as souvent vu l'aiguille revenir où est-ce qu'elle était avant. À un moment donné, ça passe, ça revient. Avant, on vous appelait les syndics de faillite. Maintenant, on vous appelle les syndics autorisés en insolvabilité. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les particuliers comme moi ou encore les entreprises?
Ouais, le syndic autorisé en insolvabilité, premièrement, en 2016, le bureau de surintendant de faillite, c'est là qu'il a dit, ben regarde, syndic de faillite, c'est parce que ça implique dans la tête des gens qu'on parle juste de faillite. Puis faillite, ça fait peur aux particuliers qui ont des difficultés financières, ça fait peur aux entrepreneurs qui ont des entreprises en difficulté. Alors, dans une décision fort sage, là, il a dit, on va appeler ça des syndics autorisés en insolvabilité qui, dans l'impression des gens, donnent une idée plus large des services qu'on peut offrir. Puis, des services qu'on offre, on en offre beaucoup là, au niveau des consommateurs, on a déjà parlé, mais au niveau commercial aussi. Au niveau commercial, c'est plus challengeant des fois, mais c'est plus gratifiant aussi également. Alors, tu sais, quand une entreprise est en difficulté, bien souvent, l'entrepreneur qui constate qu'il y a des difficultés, il n'est pas en mesure de donner un diagnostic fiable parce que c'est comme si l'arbre lui cachait la forêt. T'sais. Alors, bien souvent, ça va être bon d'avoir un tiers, comme un syndic autorisé en insolvabilité, qui a l'expérience dans ce domaine-là, pour poser un diagnostic clair. Alors, puis selon ce diagnostic-là, ça va permettre de déterminer c'est quoi les options qui peuvent être possibles pour sauver l'entreprise. Alors, selon la situation, l'intervention peut viser la stabilisation de l'entreprise, la restructuration des dettes, la réorganisation des opérations. Puis si la poursuite de l'entreprise, là, c'est plus viable, elle est dans un domaine qui est en forte décroissance, ben, ça peut être finalement une liquidation ordonnée des biens de l'entreprise. Puis tu sais, le syndic, là, il y a une position privilégiée là-dedans parce que lui, il est à la convergence des intérêts. T'sais, l'entreprise a des intérêts, les créanciers ont des intérêts, puis il peut y avoir d'autres parties prenantes qui ont des intérêts. Alors, le syndic est là pour balancer ça, puis trouver une solution qui va être, t'sais, optimale pour l'ensemble des intervenants. Mais t'sais, toujours l'idée là, derrière, c'est l'objectif, là, c'est de préserver la valeur des actifs puis protéger l'intérêt de toutes ces parties
Ouais.
prenantes-là.
Mais quand je suis une personne, je sais pas moi, je suis autonome, là. Je suis pas une entreprise, puis je m'en vais voir Stéphane Leblond, syndic autorisé en insolvabilité. C'est pas dit que si je décide de faire affaire avec toi, c'est pas dit que je fasse faillite, là. Il y a d'autres choses que je peux faire comme proposition qui va faire en sorte que, en bout de ligne, ce ne sera pas une faillite.
Ah, définitivement. Puis la plupart des gens, tu sais, la majorité des gens qui arrivent ici, ils font ni faillite ni une proposition, là. Tu sais, on leur dit, ben, regarde, ce qui peut être fait, c'est une réorganisation du budget, vendre des actifs excédentaires, refinancer, tu sais, un bien sur lequel il y a une certaine équité. C'est ça qu'on analyse lors d'une rencontre, là, d'une première ou des deux premières rencontres pour établir c'est quoi l'option optimale là, pour sauver les meubles?
J'ai-tu les moyens d'aller rencontrer un syndic autorisé en insolvabilité?
Ouais, ça, c'est une question. Il y en a qui ont peur parce que ça va coûter des milliers de dollars, là. La première rencontre, la première ou les deux premières rencontres, peu importe, là, avec un syndic autorisé en insolvabilité, c'est sans frais, sans obligation. T'sais. On jase du problème. On pose des questions là, vitales pour être capable d'avoir une analyse sérieuse. Puis on établit les options, puis on discute de ces options-là avec la personne ou le représentant de l'entreprise là, qui est en difficulté. Puis on va évaluer avec cette personne-là lesquelles de ces options-là sont viables, c'est quoi les avantages puis les inconvénients de chacune de ces options-là, puis c'est quoi aussi les coûts associés à chacune de ces options-là.
Ça existe-tu encore, Stéphane, des faillites payantes? Les gens nous parlaient de ça dans les années 80, les années 90. Ah, moi, j'ai eu des faillites payantes. Il y en a-tu qui se font de l'argent avec des faillites, là?
Bah, tu sais, il y en a sûrement que ça arrive, là, tu sais, mais il y a tellement de mécanismes de sûreté, là, pour prévenir cette chose-là. Parce que une entreprise qui fait faillite, ben, le syndic, il va faire une analyse des opérations pendant la période critique, généralement un an avant la faillite. Puis, il va déterminer s'il y a des paiements qui ont été faits de préférence à certains créanciers. Alors, le directeur, là, ou le président de l'entreprise, qui a payé ses chums ou il a payé son beau-frère ou ses enfants avant que l'entreprise fasse faillite, bien, le syndic peut reviser ces transactions-là. La loi lui donne les pouvoirs pour faire ça. Si l'entreprise a s'est débarrassée de ses biens à vil prix pendant la période critique, bien, le syndic peut reviser ces transactions-là, ultimement aller rechercher ces biens-là, les liquider, puis en distribuer le produit entre les créanciers. Fait que, tu sais, les créanciers sont au courant généralement des activités de l'entreprise parce qu'ils transigent avec elle. Le banquier, bien souvent, c'est une source d'information. Tu sais, le banquier, on peut lui demander, regarde, est-ce que vous pourriez nous donner les derniers bilans, ne serait-ce que les bilans maison que l'entreprise vous a fournis? Il va nous fournir ça, puis on me dira, il y avait tant d'inventaire il y a 6 mois, puis là, on n'a plus d'inventaire. Est-ce qu'on pourrait avoir les explications pour ça? Alors, on peut faire une analyse comptable pour tenter de. Des fois, c'est des réponses qui ont de l'allure, puis ça a bien du bon sens, mais des fois, ça peut être des réponses boiteuses qui méritent qu'on enquête plus, puis qui vont ultimement mener à des procédures de la part du syndic.
Si je suis un simple travailleur ou encore si j'ai une entreprise, est-ce que je passe absolument dans le journal quand je vais être déclaré comme faillite?
Non, pas nécessairement. Ben, les faillites, premièrement, pour les particuliers, c'est rendu relativement rare. Tu sais, sur, mettons, 100 dossiers
Ouais.
d'insolvabilité de particuliers, ben, il va y avoir 80 % de propositions de consommateurs, puis 20 % de faillites. En gros, là, c'est les chiffres, là, 2025-2026. Alors, pour les propositions, il n'y a pas de publication dans le journal. Puis au niveau des faillites de particuliers, c'est juste les faillites qu'on appelle les faillites ordinaires. C'est-à-dire quelqu'un qui a plus de 15 000 piastres d'actifs libres, puis c'est plutôt rare, c'est l'exception. Puis au niveau du bureau du surintendant de faillite, ils sont en train de reviser là, la loi Savitt, puis il n'y aura plus de publication dans le journal. Ils vont trouver un mécanisme alternatif qui va être probablement de publier ça sur le site du bureau du surintendant des faillites. Mais pour les faillites d'entreprise, ça, c'est toutes des faillites ordinaires. Okay? Alors, n'importe quelle entreprise qui a 10 000 piastres d'actifs ou 1 million d'actifs, il va avoir une publication dans le journal. Mais si c'est une proposition de cette entreprise-là, il n'y a pas de publication. Okay. Justement parce qu'on ne veut pas fragiliser puis impacter l'achalandage de ces entreprises-là.
Je comprends. Puis, tu es un homme d'expérience, ça fait longtemps que tu es dans ce domaine-là. À ta connaissance, pourquoi on avait mis ce mécanisme-là des parutions dans le journal pour informer que, je ne sais pas moi, Marceau fait faillite?
Ouais, le but, c'était pas de punir le débiteur, tu sais, de le mettre au pilori, comme tu avais dans le temps, là. C'était d'informer les créanciers qui auraient pu être oubliés ou omis. Alors, Marceau Incorporé fait faillite. Alors, dans le journal de Québécois ou dans Le Soleil, il y a une publication de l'avis de faillite. Puis, Joe Blow, qui est fournisseur de Marceau Incorporé, dit « J'ai jamais eu l'avis du syndic. » Alors, il va appeler le syndic lundi matin. Il va dire « Monsieur Leblond, j'ai vu que Marceau Inc. avait fait faillite, alors je suis créancier. Alors parfait, c'est quoi votre adresse courriel? On va lui transmettre les documentations relativement à cette faillite-là. » Des fois, ça peut être un oubli légitime. Des fois, des gens, pour X raisons, ils ne déclarent pas tous leurs créanciers, ce qui est contraire à la loi. Alors c'est l'idée derrière ça, c'était d'informer les créanciers qui auraient pu être oubliés.
Puis c'est encore tenace ça, chez les gens que tu rencontres une première fois dans ton bureau, des gens qui ne veulent pas passer dans le journal,
C'est de moins en moins, on s'en fait parler, mais il y a des gens que ça inquiète. Ils disent je veux pas que ma voisine sache ça ou je veux pas que mon beau-frère sache ça. Alors, même quand il y a des publications dans le journal, c'est assez discret. Il faut vraiment être motivé pour couvrir ça.
Oh, oui.
Quelqu'un qui a beaucoup de temps au Tim Hortons ou au McDonald's, à la troisième fois qu'il lit le journal, il va dire « Ah, ben donc, je savais pas que Jean-Maurice avait fait une faillite ou que la compagnie de Janine avait fait une faillite. » Alors, c'est pas très couru comme lecture journalière.
Puis quand on va vous rencontrer, c'est un processus qui reste dans l'anonymat le plus total.
Ah ouais, ben de toute façon, il y a des dispositions dans la loi sa faillite, là, les règles, entre autres 38 et suivantes, qui parlent du code de déontologie des syndics autorisés en insolvabilité, qui parle entre autres du caractère confidentiel lorsqu'il y a des rencontres ou des informations. Le syndic ne peut pas profiter de ces informations-là pour s'enrichir. Si, mettons, on était consulté par une compagnie qui est, mettons, établie à la bourse, alors on ne pourrait pas shorter le titre parce qu'on a des informations que l'entreprise est en difficulté. Ça, c'est carrément contre ce qui est prescrit par le code de déontologie, puis c'est moralement répréhensible aussi, là, mais non, la rencontre initiale, c'est tout à fait confidentiel. Une fois, par contre, que la proposition est déposée puis que la faillite est déposée, bien là, les informations qu'on a, bien, ils sont disponibles pour les créanciers, ils sont disponibles pour le bureau du surintendant des faillites puis tous les intervenants là, qui auraient à faire en vertu de la loi là, à ce dossier-là.
Ce soir, on va se concentrer sur les entreprises. Est-ce que les entreprises vont vous voir trop tard, les syndics autorisant l'insolvabilité? Est-ce qu'ils vont vous voir quand ils ont comme plus de recours, ils ont tout emprunté ce qu'ils pouvaient emprunter? Le love money aussi, ils sont allés voir leur conjointe. Hey, si tu peux-tu me passer 20 000, 30 000, 40 000? J'essaie de payer tous mes fournisseurs ce mois-ci. Les gens attendent-tu trop longtemps encore en 2026 avant d'aller vous rencontrer?
Ça, c'est une bonne question parce que avant, là, mettons 10-15 ans, là, les entreprises, là, ils venaient nous voir quand il y avait une saisie de leur compte de banque par les autorités fiscales ou encore un créancier avait obtenu un jugement, puis ils exerçaient ce jugement-là. Puis à ce moment-là, le nombre d'options était plutôt limité. T'sais, c'était la faillite, sauf exception, là, puis signe ici, puis pèse fort sur le crayon. Aujourd'hui, il y en a encore qui viennent nous voir tard, là. Mais de plus en plus, les gens viennent nous voir tôt. Fait que, tu sais, il y a moyen de trouver des solutions pour éviter ça. Puis souvent, ça va être le banquier qui, à un moment donné, il reçoit, lui, des états financiers régulièrement. Puis il va dire, mais regarde, tu sais, nous autres, la marge de crédit, là, il y a X conditions qui sont reliées avec l'obtention de la marge de crédit. Puis là, on trouve que tes comptes à recevoir, bien, ils ne sont pas assez élevés par rapport à la marge qui t'est établie ou encore tes comptes à recevoir, ils datent de trop longtemps. Alors, ce serait peut-être important que tu fasses des mesures pour corriger ça. Alors, il peut référer à son département des comptes spéciaux qui peuvent aider l'entrepreneur à se sortir de cette impasse-là. Ou encore, l'entreprise peut aller voir un syndic autorisé en insolvabilité qui va élaborer, lui, les options qui vont pouvoir lui permettre de régler le problème.
Franchement intéressant. Donc, plus rapidement, on va rencontrer votre entreprise ou les syndics autorisés en insolvabilité, plus on a de chances de peut-être même s'en sortir.
Oui, parce que, tu sais, la rencontre tôt, ça va nous permettre, là, quand on va faire l'analyse des opérations, d'établir le diagnostic, tu sais, on va évaluer la structure d'endettement de l'entreprise. Et si l'entreprise a paye trop à court terme des dettes qui devraient être à long terme, mais là, tu sais, ça cause un problème au niveau de la liquidité, du fonds de roulement. Ça va nous permettre d'identifier les sources des pressions financières. Alors, s'il y a des employés, mettons, on identifie des employés il n'y a aucun gain net à garder ces employés-là ou des opérations, des divisions d'entreprise qui rapportent rien puis qui coûtent de l'argent, bien, on peut mettre le doigt là-dessus puis que la personne ou l'entreprise peut gérer ça. On peut analyser la viabilité des opérations. L'entreprise qui fait des pertes récurrentes depuis 5 ans, là, c'est, tu sais, tu fais des pertes 1 an, 2 ans, 3 ans, mais tu sais, à 5 ans, là, c'est peut-être pour peut-être changer ton modèle d'affaires ou changer ton
Mais
marché
est-ce que
ou.
ces gens-là, ils ont trop le nez collé sous l'arbre puis ils voient plus la forêt? Parce que je veux dire, c'est des hommes et des femmes d'affaires. Ils ont quand même une certaine expérience. Certains sont en affaires depuis 10, 15, 20, 30 ans. Quand ils vont te voir, ça arrive-tu des fois? Tu te dis, un peu, regarde ici, là, précisément. Là, t'as-tu vu cette statistique-là qui te met vraiment dans l'embarras? Puis là, ils disent, j'avais pas vu ça.
Oui, ça arrive. Bien souvent, tu sais, l'entrepreneur là, qui a une moyenne entreprise, puis qui a parti ça là, tu sais, dans son sous-sol, puis après ça, il est allé dans son garage, puis après ça, il a loué, tu sais, une porte de garage pour faire un peu de mécanique. Lui, là, c'est son bébé. C'est son enfant. Fait que, tu sais, ton enfant, tu sais ce que c'est, tu n'as des enfants, là, on va pardonner bien des affaires, puis il y a des affaires qu'on va faire de l'aveuglement volontaire, tu sais, pour pas voir. Ça, c'est une chose, fait que ça peut retarder la prise de conscience qu'il y a un problème. Puis, il y en a d'autres qui vont, je sais pas moi, ils vont se dire, ben, regarde, on rêve toujours à des lendemains meilleurs. Ça, c'est la nature humaine est faite comme ça. Mais, tu sais, il faut se rendre à l'évidence, puis on va leur dire ça. Regarde, voici, on va vous remettre, t'sais, on disait vulgairement les yeux en face des trous, là, mais, tu sais, il faut qu'on fasse un exercice. Puis des fois, les gens vont nous dire, regarde, moi, je ne te crois pas. Je ne partage pas ton diagnostic. Puis ça, c'est bien correct. On ne peut pas être tous de la même opinion. Mais ces gens-là, ils vont venir nous voir un mois ou deux après. Regarde, tu avais raison, là. Puis finalement, j'ai essayé telle affaire, puis c'est toujours le même problème. T'sais, on essaye d'émettre un diagnostic suffisamment sérieux là, pour sauver l'entreprise. C'est notre marché, ça, sauver les entreprises, là. Mais des gens, il y en a encore qui viennent nous voir trop tard, malheureusement.
Puis qu'est-ce que tu vois le plus souvent comme problème dans les entreprises qui viennent te consulter par rapport à une possibilité peut-être de faire une faillite?
Ce qu'on voit comme problème, les gens, les entreprises, bien souvent, sont sous-capitalisées. Okay? On l'a toujours dit, il faut 3 choses pour partir une entreprise, là. Il faut de l'argent, de l'argent, puis de l'argent. Alors, tu sais, quand tu n'as pas ces 3 choses-là réunies, là, tu vas te rendre compte que tes prévisions pour arriver, devenir profitable, ben, ça prend plus de temps que prévu. Si ça prend plus de temps que prévu, ça prend plus d'argent. Puis le banquier, lui, il fonctionne avec des ratios. Si tu dépasses ces ratios-là, il va dire, ben, trouve-toi une source alternative. Alors, tu vas encaisser ton REER, tu vas demander de la love money. Alors, ça, tu vas te ramasser avec des marges de crédit qui vont toujours être au maximum. Ça va être difficile d'opérer comme ça. Ça met une pression épouvantable, non seulement sur l'entrepreneur, mais sur ses employés. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qu'on voit souvent, c'est des gens qui n'ont pas assez d'expérience pour gérer l'entreprise dont ils sont responsables. Puis l'expérience, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas leur domaine, c'est justement qu'ils sont bons dans leur domaine. Mais ils sont mauvais en gestion ou ils n'ont pas l'expérience nécessaire en gestion. Tu peux être un excellent opérateur de restaurant, tu fais des recettes fantastiques, tu en reconnais à travers le monde, mais au niveau de la gestion, ça ne va pas. Puis comme c'est ton bébé, le restaurant, ben, engager quelqu'un pour faire la gestion du restaurant, c'est comme, tu sais, donner les clés du char, là. Tu sais, alors, il y en a qui vont être hésitants avec ça, puis les problèmes, ils vont s'accumuler jusqu'à un moment où tu vas dire, ben, ça avance plus, là.
Ouais,
Alors, c'est
ils ont
le
pas de,
diagnostic
ouais, c'est
est
ça.
là.
Ils ont pas de fonds de roulement où ils peuvent peut-être prendre de l'argent de la TPS, TVQ perçue pour essayer de payer les affaires. Puis à un moment donné, c'est comme un cercle vicieux, t'es plus jamais capable de te sortir la tête de l'eau.
C'est ça, parce que ça, se financer avec les déductions à la source, puis les TPS, TVQ, on voit ça souvent.
Ben oui.
Certains milieux, ils sont pires que d'autres. Mais tu sais, c'est un geste qui est bien humain, parce que l'entrepreneur va dire, regarde, on est dans une situation, là, temporaire. Alors, le ministère du Revenu, qui est une grosse machine, avant qu'ils montent des dents, mais ils vont attendre, tu sais, un rapport, deux rapports, trois rapports. C'est pas brillant comme raisonnement, mais tu sais, c'est un mécanisme de survie, si tu veux. Alors, dans certains cas, effectivement, la solution va être temporaire. Les beaux jours vont revenir. Tu vas payer des pénalités puis des intérêts sur tes remises que tu n'as pas faites, puis tu vas t'en sortir pour ça. Mais bien souvent, la période creuse, elle se poursuit. Puis là, maintenant, quand le ministère du Revenu, il vient montrer des dents, bien, c'est pour geler ton compte de banque, c'est pour signifier tes comptes à recevoir, puis là, ça bloque complètement. Puis quand on est rendu à ce niveau-là, les négociations avec le ministère du Revenu, ben c'est plus difficile. Ça ne dit pas que c'est impossible, parce qu'il y a encore des. Quand un plan intelligent à proposer à Revenu Québec, c'est crédible, c'est plus facile à faire passer que faire des affaires en panique, puis dire, regarde, on pense que, puis on espère. Ça, c'est moins sérieux un petit peu.
Ça fait des années qu'on collabore ensemble, Stéphane Leblond chez Leblond et Associés, syndic autorisé en insolvabilité. Je pense que cette question-là, je te l'ai jamais posée. Qu'en est-il des propriétaires qui se payent en premier, avec quand même de beaux gros salaires, alors que l'argent ne rentre pas tant que ça dans l'entreprise, puis qu'à un moment donné, bien, plus capable de payer les fournisseurs, plus capable de payer les employés, ils ont obtenu des subventions à gauche et à droite. Tu te rends compte que les seuls perdants, c'est les fournisseurs, puis lui, ben, avait, je sais pas moi, il se donnait un gros salaire pas mal plus élevé que ses revenus. C'est-tu le genre de choses qui peut être criminel en 2026? Parce que
Bon.
j'en ai souvent entendu parler de. Mettons, je dis Northvolt, mettons. Mettons, je dis Northvolt ou je dis, je sais pas moi, d'autres entreprises qui ont été subventionnées. L'entreprise Lion Électrique. Moi, j'étais un actionnaire de Lion Électrique, là. J'étais un fier actionnaire de Lion Électrique. Je pense que j'avais acheté à l'époque 200 ou 300 actions de Lion Électrique au coût de 22-23 piastres. Finalement, ça a tombé à zéro. Je me rends compte que les subventions du gouvernement sont allées là, qu'il y a des employés qui n'ont pas été payés, des fournisseurs qui n'ont pas été payés. Je regardais le salaire des dirigeants. Les dirigeants, eux autres, ils ont été payés puis ils se donnaient des bons salaires. C'est-tu légal de faire ça?
Ben, si t'sais, ce qui pourrait être illégal, c'est si le dirigeant X, là, le président de la compagnie, il a toujours gagné, je sais pas moi, 500 000 par année, puis quand il commence à sentir la soupe chaude, il monte son salaire à 1 million par année. Ça peut être répréhensible. Puis dans les mécanismes dont je parlais tantôt, dont le syndic dispose pour reviser des transactions-là ou des paiements comme ça, le syndic peut les reviser. Mais tu sais, ça reste anecdotique. Tu sais, des Lions électriques, il n'y en a pas 50 par année au Québec, là. Mais ce qu'on voit beaucoup, par contre, dans les petites et les moyennes entreprises, c'est que ça va être le contraire. Le dirigeant, il va diminuer son salaire pour s'assurer que on grève pas trop les liquidités de la compagnie. Puis lui aussi, il est intelligent, puis il croit, puis c'est son bébé, ça. Tu sais? Alors, il dit, je vais couper ça. Ça affectera pas trop mon train de vie, puis ça va permettre à l'entreprise de passer ce creux-là. Puis même dans des cas de propositions concordataires, des propositions commerciales, mettons le président de la compagnie, il est dû, je sais pas, tu sais, 80 000 piastres ou 100 000 piastres pour des avances qu'il a faites à la compagnie pour aider à faire passer les payes, puis faire les remises de DAS, puis ces choses-là. Bien, il va renoncer à sa créance pour permettre aux créanciers d'en avoir plus. Ça, on le voit aussi. Fait que, tu sais, le dirigeant d'entreprise qui va dire, regarde, on va tripler mon salaire parce que, tu sais, ça s'en va dans le mur, ça reste
C'est
anecdotique. Mais ça.
anecdotique.
Ouais.
OK. Puis ça, mettons, parce que là, je sors de Lion Électrique, mais mettons qu'on arrive avec une entreprise qui était lourdement subventionnée, qui avait énormément de fournisseurs. Ces gens-là n'ont pas été payés, les employés n'ont pas été payés, mais lui n'a jamais, justement, fait ce que tu mentionnes, que tu vois majoritairement, là. Il n'a jamais diminué son salaire pour tenter de sauver son entreprise. Quand vous vous apercevez qu'au contraire, il l'a augmenté, pouvez-vous aller chercher ces sommes-là?
Oui, le syndic il bénéficie de pouvoir, si ça a été fait en fraude des droits des créanciers, ou t'sais, contraire à ce que la loi prescrit, le syndic peut aller récupérer ça. Mais t'sais, c'est une dynamique bien différente, là. Quand tu es hautement subventionné, c'est Investissement Québec qui est ton principal créancier ou ton principal actionnaire, c'est pas la même chose que, on disait tantôt, l'entrepreneur ou l'entrepreneur qui a parti sa compagnie de rien, qui est endosseur sa marge de crédit, qui a mis sa tête, sa bûche pour la survie de l'entreprise, qui a travaillé pendant des années, qui a encaissé son REER pour partir son entreprise. Lui, il va faire attention là, aux dépenses, dont son salaire, pour permettre à l'entreprise de passer au travers. Mais tu sais, le gars qui est subventionné des millions et des millions, il est un petit peu plus déconnecté de cette réalité-là.
Ouais. Il y a déjà un homme d'affaires qui disait « Le truc en affaires, c'est de se payer en premier. » Mais de ce que je comprends, c'est pas tout le monde qui se paye en premier. La majorité, comme tu me dis, préfère payer leurs employés, payer leurs fournisseurs, puis eux autres, ils se payent en dernier. Puis souvent, ce que je m'étais fait dire par des entrepreneurs, c'est « Si jamais je comptais toutes mes heures, souvent, je m'apercevrais que je gagne moins cher que mes employés au taux horaire. »
C'est un fait. Puis tu sais, au Québec, là, puis dans plusieurs juridictions, le dirigeant d'entreprise, il doit gérer de bonne foi. Puis, tu sais, il est comme fiduciaire là, de tous ces biens-là pour ses fournisseurs, dont ses employés, qui sont les fournisseurs les plus proches. Si tu n'agis pas de bonne foi, bien, tu t'exposes à des recours de n'importe quelle partie qui aurait pu être lésée dans le processus.
Est-ce que le processus est long quand je vais rencontrer Stéphane Leblond pour une restructuration d'entreprise ou un redressement d'entreprise? Qu'est-ce que vous faites exactement dans mon entreprise pour que je puisse repartir de plus belle puis en étant peut-être un peu plus soulagé? Parce qu'on va se le dire, quand on a des problèmes financiers, on en avait déjà parlé, toi et moi, dans une des entrevues qu'on a faites ensemble. Il y a des gens qui ont de la misère à dormir. Il y a des gens qui s'endorment, puis à 3 heures du matin, s'ouvrent les yeux, puis ils se demandent comment ils vont faire pour finir la semaine. C'est quoi vous faites pour ces gens-là, exactement?
Les gens en affaires, tu parles?
Oui, les gens en affaires, oui.
Les gens en affaires, là, tu sais, bien souvent, ils vont être, soit qu'ils vont avoir été référés par quelqu'un qui a passé par le processus, ou leur avocat, ou leur comptable, ou quelqu'autre professionnel, ou la publicité qu'on peut faire. Alors, tu sais, dépendamment de la grosseur de l'entreprise, l'importance des problèmes, puis les événements particuliers qui ont pu arriver, là, tu sais, une saisie par Revenu Québec ou le banquier qui a rappelé la marge de crédit, alors des fois, tu es obligé de te retourner pas mal plus vite que ça. Mais quand, on disait tantôt, quand le problème est pris tôt, bien là, on peut établir un plan d'action, tu sais, pour notre diagnostic, soumettre les options, ça peut se faire en quelques jours ou quelques semaines, dépendamment de l'ampleur du mandat qui nous est confié. Mais dans certains cas, ça peut être, regarde, on est rencontré le matin à 8 heures, puis à 2h30 de l'après-midi, la compagnie elle a déposé un avis d'intention de faire une proposition. Okay. Le temps de geler tout le monde, le temps qu'on puisse regarder ça, c'est quoi les options?
Okay. Je pensais que vous alliez comme dans chaque département, mais ce que vous faites, c'est que vous regardez les livres comptables puis vous êtes capable de faire une analyse, là.
Oui, c'est ça. Puis bien souvent, les livres comptables, là, ça va aller au minimum, là, dépendamment de l'urgence. Ça va être les états financiers les plus récents, les procédures qui ont été prises là, pour qu'on soit en mesure de préserver là, les actifs de l'entreprise, son achalandage, puis la valeur pour les actionnaires aussi.
À quoi servent les propositions aux créanciers, que ce soit pour une entreprise ou encore que ce soit pour un indépendant?
Bien, la proposition aux créanciers, ça, c'est l'alternative à la faillite, que ce soit une proposition faite par un particulier ou une société, là, c'est pour permettre à l'entreprise là, de restructurer ses dettes. Okay? Alors, on dit que l'entreprise elle a 100 000 piastres de créanciers non garantis, elle n'est pas capable de payer ça. Ce qu'elle pourrait payer, c'est, mettons, 20 % ou 25 % ou 30 % de ça.
30 cents de la pièce, 20 cents de la pièce, 10 cents de la pièce.
C'est ça. Okay. Puis, ce qui va déterminer, là, c'est quoi qui va les motiver à voter pour ou contre cette proposition-là, parce que le syndic leur transmet beaucoup de documents, là, dont un rapport qui dit « Moi, syndic, je recommande l'acceptation de cette proposition-là ». Parce que si l'entreprise faisait faillite ou l'individu faisait faillite, bien, en faillite, il récupérait soit 0 ou 10 % ou 15 %, alors que dans le cadre de la proposition, c'est 30 ou 35 ou 40 %. Alors, les créanciers, ils ont plus d'intérêt à voter en faveur que contre la proposition. Ça, c'est un aspect. La proposition peut également servir à restructurer certaines activités de l'entreprise. Alors, une entreprise qui a des places, qui a 5 places d'affaires dans 5 centres commerciaux, puis il y a 2 de ces 5 places d'affaires-là qui sont en déficit année après année après année. Alors, il y a des dispositions dans la loi Safeyette qui permettent, dans le cadre d'un avis d'intention, d'envoyer des avis pour répudier les baux des places qui sont non rentables pour que l'entreprise puisse garder les places rentables, générer des profits, puis c'est ces profits-là qui vont permettre de payer la proposition aux créanciers. Alors, tu sais, il y a beaucoup d'outils dans la loi Safeyette qui permettent d'aller rechercher un objectif qui va être bénéfique à tout le monde.
On est avec Stéphane Leblon de chez Leblon et Associés, syndic autorisé en insolvabilité. Leblonetassociés.com, ça fonctionne toujours?
C'est gosyndicleblon.com.
Gosyndicleblon.com pour rejoindre Stéphane et toute son équipe. On fait une courte pause et on vous revient tout de suite.
Marceau, le soir. Le segment que personne ne veut manquer le matin. Le Pit Stop de 7h55 avec Gravel et Marceau.
Tu veux te partir une rébellion, Marceau? Tu te bats contre le gouvernement? Ça te prend des vrais. Moi, je niaise pas. Les arbois, je niaise pas non plus. Le de 1999, je vais le garder. Pis ça ne viendra jamais de niaisage. Le montage coupe les bouts. Tout ce que j'en prends, mon souffle parce que je suis un tatatatac. Tu vas voir qu'il n'aura pas de niaisage, Marceau. Pis le gouvernement va jeter à terre. Des tempêtes. S'ils disent que c'est une tempête depuis 4 jours, y'a rien qu'une bourrasse de vent dehors, les enfants restent à la maison, ça fera pas des durs, ce bonhomme, ça ira pas à guerre, certain! Ça te prend un gars comme moi pour monter ta rébellion, est-ce que 1997, Marceau, merde, on est écœuré de se faire fourrer par le gouvernement, est-ce que...
Le Pit Stop des Boulevards 102, lundi au jeudi, 7h55.
Skier, courir, jouer, pelleter, le corps travaille fort et parfois il a besoin d'un peu d'aide. Chez PCN, on t'aide à rester en mouvement. PCNphysio.com.
Avec le prix de l'essence qui augmente, c'est le temps de passer à l'électrique chez Kia Lévis. Il n'y a jamais eu un meilleur moment pour se procurer le Kia Niro EV. En ce moment, en combinant les rabais Kia et les subventions, vous obtenez une réduction allant jusqu'à 12 000 $. Oui, jusqu'à 12 000 $. Et même le financement est à 0 %. Passez vite chez Kia Lévis pour en faire l'essai et ne soyez plus jamais affecté par le prix de l'essence. Kia Lévis. Sur approbation du crédit, des conditions s'appliquent.
Depuis 2013, La Voix Maltée apporte le meilleur du Saguenay à Québec. Bières artisanales, cuisine créative, vibe authentique. C'est du local qui goûte vrai. En couple ou entre amis, venez vivre nos 5 à 7 qui deviennent des souvenirs mémorables. La Voix Maltée, sur Pierre Bertrand.
Lévis, le plus grand chantier naval du Canada, recrute. 500 postes à combler dès maintenant. Soudeurs, constructeurs navals, assembleurs mécaniques, tuyauteurs et plombiers sont recherchés. Avec des projets jusqu'en 2040 et des conditions solides. Ose le grandiose pour ta carrière. Postule au devirecrute.ca.
Hélène, tu joues vraiment bien.
Ah, oh, merci. C'est grâce à Grégory Charles.
Grégory Charles, le musicien?
Oui, c'est lui qui m'a appris à jouer du piano. Je voulais avoir une base parfaite.
Recevoir des conseils de professionnels pour atteindre nos objectifs, c'est ce qu'on veut. Et c'est aussi vrai en ce qui concerne nos avoirs. Chez Desjardins Gestion de patrimoine, notre expertise est au service de votre patrimoine.
Pluie, neige ou soleil, vivez Charlevoix autrement. Les Tanières Microchalets vous accueillent dans des chalets uniques, chaleureux et nichés au cœur de la forêt. L'endroit parfait pour décrocher et respirer. Planifiez votre séjour dès maintenant au tanières-avec-un-s.com.
Le printemps arrive et les routes vous attendent. Chez Volkswagen Saint-Nicolas, profitez de 90 jours avant votre premier paiement sur le financement de votre prochain Volkswagen neuf. Une offre applicable sur tous nos modèles. Avec un large inventaire disponible, c'est le moment parfait pour passer au volant d'un Volkswagen. Volkswagen Saint-Nicolas, choisissez le vôtre dès aujourd'hui.
À la CCAP, on est plus qu'une compagnie de télécom. On connecte avec des humains et on a un poste pour toi. On recherche un préposé à l'entretien et à la maintenance. T'es organisé, autonome et t'aimes que ça bouge, viens t'accomplir dans une coop dynamique impliquée dans son milieu. Salaire compétitif, assurance RR collectif, rabais corporatif et bonus de bienvenue de 1 000 $. Postule dès maintenant au ccapcable.com/carrière ou au carrière.fm.
Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. c'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
Vivez le monde plus souvent avec un abonnement au Musée de la civilisation. Rentabilisé dès la deuxième visite. Accès illimité aux expositions et activités, invitations exclusives et rabais privilèges. Abonnez-vous sur mcq.org.
Ta voiture est comme pas neuve, mais t'en veux une neuve? On peut reprendre ta comme neuve et même t'en trouver une neuve. Pour une voiture, c'est Charlebourg Toyota. Évalue ta comme neuve au comme-neuve.com.
Boulevard 102.1, 100% parlé en semaine, avec les meilleures émissions d'actualité à Québec. Leclerc Communication, le radiodiffuseur numéro 1 à Québec. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Stéphane Leblond de chez Leblond et Associés, syndic autorisé, est avec nous ce soir. On parle de faillite, on parle de propositions aux créanciers. On parle maintenant de mandat de séquestre. Qu'est-ce qu'un mandat de séquestre, Stéphane?
Un mandat de séquestre, là, c'est généralement un créancier garanti. C'est la plupart du temps le banquier qui a des raisons de croire que ses garanties pourraient être en péril ou pas aussi sécurisées qu'il pensait initialement, qui va donner un mandat à un syndic autorisé en insolvabilité d'aller commencer par aller regarder ça. Mes garanties, ils valent-tu de quoi? Est-ce que les comptes à recevoir, c'est des bons comptes à recevoir? Puis si la situation est critique ou défavorable au banquier, bien, il y a une requête qui peut être prise par le créancier garanti pour mandater le syndic, soit pour prendre en charge les opérations de l'entreprise, ou encore de prendre possession des actifs sous garantie puis de les liquider. Alors ça, c'est généralement le mandat du séquestre. Là. Puis tu sais, le créancier garanti, c'est pas toujours un banquier, ça peut être une entreprise X là, qui fait du crédit bail puis qui veut vérifier ses garanties, mais tu sais, 95% du temps, c'est le banquier qui fait ça. Les dossiers de séquestre, c'est plus rare parce que bien souvent, là, l'entreprise, elle va faire une proposition à ses créanciers, puis il y a des ententes qui vont être négociées avec le banquier pour le sécuriser ou lui donner des garanties supplémentaires ou des endossements des dirigeants. Mais l'idée, c'est de maximiser dans ce genre de dossier-là la réalisation pour le banquier pour qu'il perde le moins d'argent possible. Puis même si dans certains cas, ça ne peut pas être... facile pour le président de l'entreprise, il reste que généralement, la dette du banquier est cautionnée personnellement par le dirigeant de l'entreprise, fait qu'il y a tout intérêt à collaborer avec le séquestre pour maximiser la réalisation puis qu'il y ait moins de pièces à payer au bout là, relativement à ses endossements.
C'est quoi l'ordre pour rembourser les gens quand il y a des propositions aux créanciers? Là? Je sais pas, moi, un de mes amis fait une faillite, puis moi, j'y avais passé, il y a de ça 5 ans, 10 000 pièces. Puis il me dit, Yann, je t'inscris dans ma faillite. Je vois-tu avoir un petit montant sur ce 10 000 pièces-là? Je suis-tu prioritaire?
La réponse courte, c'est ça dépend. Parce que l'ordre de priorité de distribution des dividendes dans la loi Safid, c'est l'article 136 qui traite de ça. Le premier, qui est évidemment, tu as les créanciers garantis, là, les créanciers qui financent l'auto, qui financent les équipements, etc. Eux autres, là, ils sont garantis par ces actifs-là. Alors, ils réalisent ça. Après ça, dans le cas d'un particulier, c'est les frais funéraires ou les dépenses testamentaires raisonnables. Alors, la personne a fait faillite, elle décède pendant sa faillite. Alors, celui qui va passer avant le syndic, puis avant les créanciers, avant le ministère du Revenu, ça va être le croque-mort. Mais c'est rare, ça arrive à l'occasion. Après ça, il y a les créanciers privilégiés. Alors, pour un particulier, les créanciers privilégiés, ça va être... Mettons, un particulier qui est en affaires, tu sais, Jean-Maurice Vézina qui a une shop de mécanique là, à Vossambault-sur-le-Lac, ou encore Ginette Laframboise tu sais, qui fait de la pâtisserie dans sa cuisine à son nom personnel. Alors, si elle doit du loyer commercial, si elle doit du salaire à ses employés, C'est ça qui sont les créanciers privilégiés. Eux autres, ils doivent être payés à 100% avant qu'on arrive à l'autre catégorie de créanciers qui sont les créanciers non garantis. Alors ça, c'est les fournisseurs, c'est les cartes de crédit, les prêts personnels, puis ces choses-là. Fait que si ton ami, il t'a mis comme créancier dans sa faillite, alors, puis il ne meurt pas pendant la faillite, puis ah oui, il y a les honoraires du syndic aussi qui sont après les frais funéraires. Il y a les honoraires du syndic. Dans les cas de faillite sommaire, il y a un tarif qui est prévu dans la loi. On ne peut pas charger ce qu'on veut là-dedans. Mais les créanciers ordinaires, quand il n'y a pas trop de créanciers prioritaires, si tu veux, là, ils vont récupérer. Des fois, ça peut être des pinottes, des fois, ça peut être zéro, des fois, ça peut être des montants intéressants, 50, 60. Des fois, ça arrive 100%. Quand on paye 100%, il faut qu'on paye 5% d'intérêt depuis la date de la faillite, d'intérêt annuel. Ça arrive à l'occasion. C'est plutôt rare, là. Mais pour les entreprises, une chose qui est prioritaire aussi, c'est si les entreprises doivent des déductions à la source, que ce soit fédérale, provinciale, ça passe avant tout le monde. Ça passe même avant les créanciers garantis. Parce que le ministère du Revenu, le législateur, il a donné des privilèges, étant donné que ces sommes-là sont détenues en fiducie, là, au niveau des DAS. Alors, ils sont prioritaires. Après ça, tu as au niveau des entreprises, tu as les créanciers garantis, qui est le programme de protection des salariés. Alors, les salariés à qui se réduit des salaires, des vacances courues, des indemnités de départ. Alors, eux autres, le programme permet de les payer jusqu'à concurrence de X piastres. Alors, le programme, il prend la place de ces employés-là après les déductions à la source. Puis après ça, tu as les honoraires du syndic, puis on descend comme ça. Dans le domaine commercial, quand il arrive une faillite, plus souvent qu'autrement, il n'y a pas de dividende aux créanciers garantis, aux créanciers non garantis, parce qu'il y a tellement de choses qui passent avant, là, la minute que l'entreprise a fait des affaires, là, on n'arrive pas là. Dans les propositions commerciales, c'est là qu'on voit les plus gros rendements pour les créanciers. Mais il ne faut pas s'attendre à des 60 puis 80 % parce que, comme je disais tantôt, quand on fait le scénario de la faillite, il faut offrir plus dans la proposition que ce qui aurait lieu d'avoir dans le cas de la faillite. Bien, tu vas avoir du 15, 20, 25 % 50 % dépendamment des cas, là. Mais tu sais, ce ne sera pas des montants qui vont avoisiner 100 % Mais l'idée derrière ça, c'est de sauver l'entreprise, de permettre aux fournisseurs de l'entreprise X de continuer de faire affaire avec cette entreprise-là, de faire des profits dans le futur, puis de garder la valeur de l'entreprise aussi pour les actionnaires de ces entreprises-là.
OK. Pour un privé comme moi qui est employé, je fais faillite, j'ai pas grand-chose. T'sais, j'ai une maison, j'ai une voiture... j'ai du stock dans le cabanon, des outils et tout ça. Puis là, ben, je suis dans le trouble. Je m'en vais voir Stéphane Leblond. Puis on parle de faillite, on parle de propositions. Quand c'est le temps d'essayer de chercher des montants qu'on peut aller chercher, est-ce que je peux perdre ma maison? Je peux-tu perdre ma voiture? Je peux-tu perdre les outils qui sont dans mon garage? Ça fonctionne comment?
Si tu as des actifs, mettons dans ton exemple, une maison, là, le syndic va regarder c'est quoi la valeur de cette maison-là. Tu sais, on va regarder déterminer les actifs que tu as, c'est quoi que ça vaut. Alors, la maison, tu sais, si la maison, l'évaluation municipale, c'est 400 000 $ puis tu dois 398 000 $ dessus, bien, le syndic ne comptera pas trop sur cet actif-là, soit dans le cadre d'une proposition ou dans le cadre d'une faillite. Si ton auto, elle vaut 25 000 $ tu dois 30 000 $ dessus, le syndic ne se bordera pas avec ça. Si tu as quelques outils dans ton cabanon, tu as une scie à chaîne, une tondeuse, une souffleuse, puis des affaires comme ça, à moins, sauf exception, là, le syndic ne se bordera pas avec ça parce qu'il faut respecter aussi l'économie de la loi sur la faillite. Si tu as 3 000 $ d'outils, puis ça coûte 2 500 réaliser ça, bien, les créanciers ne sont pas beaucoup gagnants avec ça. Puis ce qui va être important aussi, c'est les revenus que tu as. Parce que c'est ça qui va nous permettre aussi d'évaluer si c'est possible de faire une proposition à tes créanciers. Alors, si tu as 3 enfants à ta charge, tu gagnes 3 000 $ net par mois, ça va être difficile de faire une proposition parce que tu n'as à peine pour vivre décemment. Tu sais, enlève les dépenses de loyer, la bouffe, vive un peu, les enfants, l'école, les loisirs, tout, tu passes au travers de ça. Si tu as des bons revenus, peu de charges familiales, Puis les créanciers qu'on sait qui sont beaucoup à l'écoute là, des propositions qui peuvent être faites par leurs débiteurs, bien là, on va regarder, on va faire un budget. Ton 5 000 $ par mois, mettons que tu payes ton loyer, puis tout, puis il te reste un surplus de, je sais pas, 800 $ à la fin du mois. Mais ça va nous permettre de déterminer c'est quoi qui peut être une proposition intéressante pour les créanciers. Parce que la proposition, là, tu sais, c'est pas le gars qui dit, ben, regarde, moi, je vais payer 800 $ par mois à mes créanciers. Quand tu fais le budget, tu dis, ben non, t'as pas ça de surplus, là. Alors, la proposition, faut qu'elle conserve un caractère crédible. Parce que, tu sais, c'est des créanciers professionnels comme Visa Desjardins, Mastercard, Banque Nationale, etc., là, ils sont capables d'apprécier le caractère raisonnable de la proposition. Puis s'ils voient que c'est pas raisonnable, ils vont voter contre. C'est pas plus compliqué que ça, parce que, tu sais, dans les dossiers de particuliers, on fait affaire avec pas mal, tu sais, toujours les 40 mêmes créanciers, là. On sait comment ils pensent, puis eux autres, c'est pas compliqué. Là, il y a plus de facteurs humains. Eux autres, ils reçoivent les chiffres du syndic, ils garochent ça dans la machine. La machine, elle crunch les chiffres, puis elle donne une réponse. Il y a un algorithme qui a été fait pour ça. Alors, c'est oui ou c'est non. Si on reçoit une réponse négative, puis nous autres, on estime qu'elle est raisonnable, la proposition, bien là, on va contacter un humain chez ces créanciers-là, puis on va dire, regarde, il y a des facteurs qu'il faut tenir compte, dont telle affaire. Puis à ce moment-là, plus souvent qu'autrement, on va dire, oui, effectivement, c'est des choses qu'on n'avait pas vues, on va changer notre vote.
OK. Et dans le cadre, je ne sais pas moi, d'un propriétaire de restaurant, la bâtisse lui appartient, la cuisine à l'intérieur, les banquettes, la décoration, tout ça, on décide qui doit faire faillite. Est-ce que c'est vous qui vous occupez de la liquidation de ses avoirs ou c'est lui qui doit embaucher un courtier, vendre l'inox?
Le syndic, lui, son rôle, là, c'est de, dans le cas d'une faillite, de prendre possession dès que possible de l'ensemble des biens de la personne ou de l'entreprise qui fait faillite. Alors, dans le commercial, on va envoyer notre priseur d'inventaire qui va prendre un inventaire, les équipements, le fonds de commerce, les inventaires, etc. Puis il va les évaluer. Puis après ça, nous, on va s'occuper de la liquidation de ça. Il y a différents mécanismes pour liquider. Là, on peut faire un appel d'offres public, là, ce qui paraît dans le Journal des Québécois ou ses sites Internet spécialisés. Ça peut être un appel d'offres privé. Si l'entreprise est dans un domaine tellement pointu là, qu'il y a 5 acheteurs potentiels au Canada, on ne publiera pas un appel d'offres public dans le journal. On va solliciter directement ces 5 acheteurs potentiels-là, puis on va dire, regarde, voici, on est en train de liquider ça, vous êtes dans le même domaine, est-ce que vous avez un intérêt là-dedans? Puis ça, c'est la façon la plus efficace de le faire. Dans certains cas, ça peut être plus avantageux d'aller dans un encan. Alors, on mandate un encanteur, mais les encanteurs, ça coûte cher, il y a beaucoup de déboursés là-dedans. Fait que, tu sais, le syndic évalue quelle façon la plus efficace. Au niveau des immeubles, on donne des mandats à des agents, des courtiers d'immeubles. Ça, c'est bien efficace. Au niveau des particuliers, des résidences, ça se vend très, très rapidement. Même le syndic, il vend sans garantie, même légale. Là. On ne garantit même pas que la maison est là. Fait que, on réussit quand même à avoir des prix de vente intéressants, puis okay, dans des délais encore aujourd'hui qui sont très, très, très rapides.
Puis, je sais pas, moi, êtes-vous déjà tombé sur des collections de cartes d'hockey, des collections de toiles, de vin, du vin, quelqu'un qui a réussi à avoir une bouteille de vin qui date de l'époque du Titanic, puis qui vaut 300 000 $. Est-ce que vous avez déjà tombé sur ce genre d'inventaire-là?
Oui, tu sais, des collections de cartes, des cartes Magic, là, je me souviens d'un cas. Ouais. Des collections de monnaie, des collections de timbres, des collections de vin. Puis, bien souvent, là, tu sais, on n'apprend pas ça de la bouche de la personne ou de l'entreprise qui est en difficulté financière.
Ben moi, je te trouve bien gentil, Stéphane, mais si je suis en problème financier, ça se peut que ma collection de cartes d'hockey, ça se peut que je l'envoie chez ma mère.
Oui, mais bien souvent, les informations à ce niveau-là, on les obtient du banquier parce que quand la personne a demandé un prêt, elle a dit « Regarde, moi j'ai un char, j'ai une maison, j'ai une collection de monnaie qui vaut 50 000 $ », alors quand arrive la faillite, le banquier nous écrit, M. Leblond, il y a 6 mois, la personne disait qu'elle avait une collection de monnaie de 50 000 $, puis elle n'apparaît pas dans l'état des actifs. Pourriez-vous enquêter là-dessus? Alors, on va faire une demande. Si la personne dit « Ah, je l'avais complètement oublié », on va prendre possession de cet actif-là, on va le liquider. Puis si la personne nous donne des réponses qui ont de l'allure, tu sais, je l'ai vendu tant de piastres, puis ça a servi à être réinjecté, puis il nous fournit le paper trail pour ça, bien, si ça a de l'allure, ça a de l'allure. Puis si on a des réponses vaseuses ou carrément on se fait mentir en pleine face, bien là, à ce moment-là, le syndic va faire interroger cette personne-là, parle de surintendant des faillites. Le surintendant des faillites va analyser ça. Puis s'il estime qu'il y a un caractère criminel à ça, bien, il va donner un mandat d'enquête à la Gendarmerie royale du Canada qui va enquêter. Puis ultimement, ça peut mener à des perquisitions ou des accusations criminelles.
2026, le 12 mars, mettons aujourd'hui, je fais une proposition au créancier, c'est accepté, bon, patati patata. Dans une semaine, j'achète un billet l'Automax, puis je deviens multimillionnaire, 50 millions. Qu'est-ce qui arrive?
Ça, là, ça a été jugé là, il y a quelques années. Là. Alors, si tu es en proposition, tu dois bonifier ta proposition.
Ah oui? OK.
Oui, mais si tu as fait la proposition le 12 mars, puis le 15 avril, tu gagnes 50 millions, ce n'est pas un gros problème parce qu'on présume que tu n'as pas 50 millions de dettes. Alors, tu vas avoir 250 000 $ de dettes. Alors, on va dire parfait. On va demander aux créanciers de produire rapidement leur réclamation. On va calculer nos frais selon le tarif, puis on va dire, regarde, alors pour payer les créanciers à ta proposition, puis le syndic, ça coûte tant de piastres. Alors, la personne, elle va nous faire un chèque. On va se payer, puis on va distribuer ça entre les créanciers. Si la personne est en faillite, ben mettons, au lieu que ce soit 50 millions, là, c'est 100 000 piastres. Okay? Alors, la proposition doit être amendée, okay, pour refléter le fait de cet événement heureux-là. Là. En anglais, ils disent « windfall », mais alors, elle doit être amendée parce que la jurisprudence est à l'effet que la faillite ou la proposition ne doit pas être un moyen pour le débiteur de s'enrichir. Okay? Si le débiteur est en faillite, il fait faillite le 12 mars, puis il gagne le 15 avril 50 000 $. Alors, la faillite, c'est une cession de biens. Okay? Alors, le principe étant que la personne qui n'est plus capable de faire face à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance, elle veut se débarrasser de ses dettes par la faillite. Alors, elle va céder l'ensemble de ses biens au syndic pour que le syndic les liquide puis en distribue le produit entre ses créanciers. Les biens qui sont cédés, là, c'est les biens qu'elle détient à la date de sa faillite, plus tous les biens qu'elle peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus jusqu'à sa libération. Alors, tu sais, tant qu'elle n'est pas libérée, si elle gagne ou elle hérite, là, bien souvent, là, c'est ce qu'on voit le plus souvent de ce temps-là, alors c'est des biens qui font partie de la saisine du syndic puis qui doivent être remis au syndic.
Il y a des gens, Steph, qui se mettent en couple puis qui ne connaissent pas nécessairement le passé financier de leur conjoint, conjointe. Ils achètent des maisons puis tout d'un coup, pouf, après 5 ans, le conjoint dit, tu sais quoi, je suis obligé de faire une faillite. Puis là, tu as la conjointe qui est là, OK, ouais, il n'y a pas de problème. Va rencontrer le syndic autorisant l'insolvabilité puis tu m'en reviendras avec ça. Je suis triste pour toi, organise tes affaires. Est-ce que la conjointe risque de perdre sa maison? Peux-tu perdre sa part? Elle ne peut pas couper la maison en deux.
Non. Mais tu sais, c'est bien fait, là, chacun a 50 % ou il peut avoir des proportions différentes aussi. Là. Le syndic à la faillite du monsieur, dans ton cas, là, il n'y a pas plus de droits dans la maison que le monsieur. Alors, le syndic, par la faillite, il ramasserait 50 % d'une maison. Alors, le syndic, il va évaluer ça vaut quoi, ce 50 %-là. Alors, la maison, elle vaut 400 000. Il y a 350 000 $ d'hypothèque dessus. Alors, l'intérêt du syndic dans cette maison-là, c'est 50 000 divisé par 2, 25 000. Alors, le syndic, il y a plusieurs choix qui s'offrent à lui. L'acheteur, le syndic, il doit liquider ce bien-là. Alors, l'acheteur potentiel le plus probable, c'est l'autre copropriétaire de la maison. Alors, il va dire, regarde, moi, j'ai évalué que mon intérêt, c'est 25 000 dans la maison. Je te l'offre à 25 000. Est-ce que ça t'intéresse? Bien souvent, la personne va dire, parfait, je vais payer 25 000 au syndic, puis je vais être propriétaire de 100 % de l'immeuble. Le syndic, à ce moment-là, il va présenter une requête à la cour, expliquer tout ça à la cour, puis plus souvent qu'autrement, si c'est sérieux, la cour va donner son assentiment à cette vente-là. Si l'autre personne, elle ne veut pas l'acheter, elle dit, regarde, oh non, moi, c'est beaucoup de troubles, cette maison-là, je n'ai pas des souvenirs positifs. Alors, il peut avoir un mandat de vente qui va être donné conjointement par la madame, dans notre cas, et le syndic à la faillite de monsieur. Puis, il y a un acheteur qui va être trouvé. Le notaire qui va instrumenter la transaction, il va payer la commission à l'agent d'immeuble, les taxes, etc., le solde hypothécaire. Puis à la fin, avec ce qui reste, il va faire deux chèques. Un chèque au syndic à la faillite de monsieur, puis un chèque à madame. Puis si la madame, elle ne veut pas racheter la part du syndic, puis elle ne veut pas qu'il y ait une vente commune qui se fasse de la maison, mais le syndic peut prendre une procédure pour faire liquider la maison. Puis à ce moment-là, est vendue par un officier de justice. Puis quand la vente va être instrumentée, il va y avoir deux chèques qui vont être faits à la fin, un pour le syndic, puis un pour l'autre copropriétaire. Mais tu sais, c'est rare, c'est exceptionnel.
Faut-tu avertir sa femme avant d'aller te voir ou aller te voir, puis après ça, avertir sa femme?
Ça, c'est une question plus philosophique que d'autres choses. Tu sais, quand ton couple va bien, là, ouais. tu discutes des bons coups comme des mauvais coups.
Exact.
Puis ça n'arrive pas comme une surprise. Non. Dans certains cas où les couples vont moins bien, alors tu caches des choses, dont des choses qui ne sont pas intéressantes à avouer, dont ta situation financière. Idéalement, c'est d'aviser ton conjoint que tu as des problèmes financiers. Dans certains cas, ça peut. On le voit de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de pression sur ces ménages avec l'épicerie puis le loyer puis tout. Et on voit de plus en plus de cas de violence conjugale, pas nécessairement de la violence physique, mais de la violence psychologique. Puis ça peut amener à des choses qui ne sont pas intéressantes. Puis dans certains cas, les gens vont nous dire mais regarde, moi, mon conjoint, je ne veux pas qu'il sache que je suis en proposition ou je suis en faillite. Alors tous les avis, vous allez soit les envoyer par courriel. Ou encore, je vais venir les chercher à votre bureau pour pas que mon conjoint soit au courant de ça. Ça, c'est une situation malheureuse. Ça veut dire que le couple est peut-être en péril aussi.
Exact, exact. Chose sûre, c'est que pour se redonner un bon sommeil, des fois, il faut aller consulter les professionnels. On le sait, actuellement, il y a une incertitude économique. Les gens essaient de faire l'épicerie, puis ils se disent « Oh, tabarouette, faut que je coupe. » Avant que tout pète, allez voir Stéphane Leblond et toute son équipe. C'est gosyndicleblond.com, Steph?
Oui, gosyndicleblond.com. On va célébrer l'année prochaine notre 50e anniversaire. Fait qu'on a vu pas mal de cas différents. Là. On a des nouveaux des fois, mais on a pas mal fait tous les scénarios à date. Là.
Ça fait 50 ans déjà. Faut dire que tu as commencé très jeune. Tu avais 2-3 ans, c'est ça, quand tu as commencé?
Mais c'est pas moi qui ai commencé il y a 50 ans. C'est ouais, avec un de ses associés qui avait débuté en 1977 dans Saint-Roch.
Stéphane Leblond, merci.
Ça fait plaisir.
Passez une belle soirée. On se reparle demain. Salut tout le monde. Bye-bye.
Le soir. En mars, ça commence à sentir le printemps. Viens faire le plein de bière pour la saison. Chaloux, à la hauteur de ta soif. Chaloux, Beauport, Saint-Émile et Sainte-Cath.
À Québec, un Ford, ça se déjà.
Profitez d'offres exceptionnelles chez Desjardins Autocollection. En mars, profitez de jusqu'à 10 000 $ de rabais sur le F-150 2026 et obtenez le Ranger à 140 $ par semaine en location 60 mois avec léger raconte de 2 000 $. Pour les meilleures offres, passez-nous voir chez Desjardins Autocollection.
À Québec, un Ford, ça se
imaginez ne plus acheter de viande pendant 6 mois. C'est possible grâce à Alimentation FC. En mars, chaque commande vous inscrit au tirage de 6 mois de viande gratuite. Vous achetez de la viande de toute façon, aussi bien courir la chance d'en gagner. Commandez dès maintenant. AlimentationFC.com.
Jusqu'au 31 mars, embarquez pour l'élégance à prix de rêve avec le rendez-vous Air France. C'est le moment de prendre rendez-vous avec Paris à partir de 895 $ ou Athènes à partir de 995 $ aller-retour taxes incluses au départ de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec. Vous pouvez savourer une coupe de champagne dans toutes les classes, y compris en cabine économie. S'envoler en toute élégance. Air France. Voyagez du 12 juin au 6 octobre 2026. Voir conditions sur airfrance.ca.
Conteneur Expert est maintenant à Québec. Location et vente de conteneurs d'entreposage neufs ou usagés. Conteneurs modifiés standard, bureaux et solutions clés en main. Appelez-nous au 418-806-9051 ou visitez conteneurexpert.com.
Tu te lèves toujours brûlé. C'est pas normal. T'as aucune patience, puis ça me stresse de t'entendre arrêter de respirer la nuit. J'aimerais ça que t'aies plus d'énergie. Je veux retrouver mon chum d'avant.
Pour dormir comme avant, visitez la clinique du sommeil, lessard.com.
Boulevard. Chaque jour de la semaine, Denis Gravel et Yannick Marceau traitent des dossiers chauds du jour. Puis qui l'eût cru, ils pensent pas la même affaire.
Faites partie de la famille Kia Beauport. En mars, offrez-vous le Kia Sportage 2026 à partir de 115 $ par semaine en location 60 mois. Passez nous voir à Beauport.
Kia Beauport, une histoire de famille.
Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à sous primer. Pour découvrir un monde.